Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Aurélie Ligereau, c'est elle qui a accepté de nous donner ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour, bienvenue sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'anime avec plaisir, avec joie. Auditrice, auditeur, je veux vous dire combien je suis touché par les nombreux témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de l'émission Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes qu'Aurélie Ligereau va aujourd'hui nous donner, que dis-je, nous offrir. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, jeudi 28 mars 2024. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RDC. Bonjour Jean-Marc, merci aussi à toi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont à l'écoute. Et merci également du soutien sans faille que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc, aujourd'hui, c'est Aurélie Ligereau qui se prête au jeu. C'est elle qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un besoin de partage musical et humain. Aurélie va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a ou qu'elle peut avoir sur sa personne et sur son entourage. Aurélie Ligereau va nous guider vers la compréhension de la musique, sa compréhension, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, de l'autre, l'écoute des autres. Aurélie, vous êtes prête?
Oui, Stéphane.
Alors, Aurélie Ligereau, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes. C'est sur RDDDCCCC. Aurélie Ligereau, qui êtes-vous? Dites-nous tout, enfin tout ce que vous voudrez.
Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Aurélie Ligereau, chanteuse lyrique, soprano. Et je suis bordelaise d'origine. Donc, je suis heureuse de venir faire cette émission dans la grande région, qui est la mienne. Et j'habite maintenant à Angers avec mon mari, ma petite fille. Et alors, je suis soprano, donc je suis chanteuse lyrique, c'est-à-dire que je chante de l'opéra en grande partie. Après, il m'arrive de chanter d'autres styles de musique, on en parlera tout à l'heure. Mais la grande partie de mon activité, c'est donc de l'opéra. Donc, on va écouter aujourd'hui du Verdi, du Puccini, des choses que j'ai chantées, que j'ai aimé écouter, ce qui a été ma grande découverte de l'opéra.
Et nul doute, Aurélie, que vos choix musicaux pour l'émission de ce matin nous entraînent donc vers un magnifique voyage qui nous attend grâce à vous. Nul doute non plus que ce voyage soit teinté de belle musique vocale, instrumentale, vous le disiez à l'instant. Grâce à vous, nous allons investir différents styles, parce que la musique lyrique, oui, mais vous allez aussi nous emmener vers d'autres rivages, différents genres, différentes époques. Et puis vous avez bien sûr convoqué, j'ose le mot, des compositeurs, des chanteuses, des chanteurs, des instrumentistes, des orchestres et des chefs, parce que quand il y a orchestre, il faut un chef. Reste à savoir maintenant quelle est la définition du chef. Chef ou tyran, ça c'est autre chose. Bref, tout ce qu'il faut pour régaler nos oreilles. Aurélie, par quoi commençons-nous et quel est le premier extrait que vous allez nous proposer?
Alors, le premier extrait que j'ai choisi, c'est celui qui m'a vraiment marqué quand j'étais au lycée. C'est La Donna e Mobile, extrait de Rigoletto de Verdi, chanté par Luciano Pavarotti. Donc, c'est une version qui est extrêmement connue, qui est très joyeuse et qui qui rayonne d'un bonheur de chanter, je trouve.
Donc c'est extrait d'un opéra, je crois.
C'est extrait d'un opéra qui s'appelle Rigoletto.
Et donc c'est rigolo, alors.
Pas vraiment. C'est donc composé sur l'histoire Le Roi s'amuse, donc par Victor Hugo au départ. Oui. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Gilda, qui est capturée par le duc de Mantoue, qui est un coureur qui adore
les
femmes, etc. Et en fait, cet enlèvement avait pour but d'humilier Rigoletto, le bouffon du roi, qui a tendance à beaucoup se moquer des courtisans. Et en fait, c'est assez dramatique, puisque la personne qui est punie à la fin n'est pas finalement le méchant. Enfin, c'est très tragique.
Vous dites que c'est basé, ou c'est une adaptation d'un écrit de Victor Hugo, et le texte développe quelques vers que Victor Hugo a écrits dans Le Roi s'amuse, c'est ça ? Et je crois que ça parle d'un roi qui s'appelait François Ier.
Oui.
Alors merci beaucoup de mettre ce roi-là à l'honneur, parce que c'est un Charentais, n'est-ce pas ? Alors voici le titre, qu'est-ce que c'est déjà ?
Donc, La Donna Immobile.
La Donna Immobile, par Luciano Pavarotti.
Qual fiume al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una labile leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento muta.
Le caractère trivial, oserais-je dire, de La Donna Immobile reflète les bas-fonds de la ville de Mantoue. C'est le lieu de l'action, finalement, avec son aspect superficiel au-delà de la légèreté parfaitement incarnée par la musique, finalement. Elle traduit une vision du personnage du duc de Mantoue à propos de la vacuité du caractère féminin. Quelques paroles en français. La femme est changeante, telle une plume au vent. Elle change de ton et d'idée. Mais plus loin dans le texte, il est toujours malheureux celui qui se fie à elle. Je suis étonné, Aurélie, je vous le dis, qu'une femme chanteuse choisisse ça avec ces paroles-là. Comment vous expliquez ça ? Vous êtes d'accord avec les paroles ?
Alors, effectivement, ce sont les paroles dites par le personnage du duc de Mantoue, qui est quelqu'un de pas du tout féministe.
Allons bon, on s'en serait douté, mais vous faites bien de le confirmer.
Et donc, le propos de l'opéra, en fait, c'est pas du tout d'expliquer que les femmes sont futiles, c'est au contraire de montrer que celui qui ne pense qu'à la futilité des femmes va être le bec dans l'eau, finalement, à la fin. En fait, j'ai choisi cet extrait parce que quand j'étais au lycée, je me destinais
à des... C'était il y a 4 ou 5 ans, quoi.
Voilà, à peu près. je me destinais à des études de type général, et donc je me suis dit, tiens, s'il faut que j'écoute de la musique pour ma culture générale, je me suis acheté un disque qui s'appelait Les Trésors de l'Opéra. Et il y avait... plein de chefs-d'œuvre, 50 chefs-d'œuvre, dont les plus connus, en fait, dont La Donna Immobile fait partie. Et en fait, je chantais par-dessus les morceaux, avec ma voix de l'époque, d'adolescente.
Et, voix naturelle, c'est ça ?
Voilà, une voix qu'on appelle naturelle et qui sonnait relativement bien, quand même, sur ces morceaux qui sont des morceaux d'opéra, et donc on doit travailler pendant des années avant d'arriver à faire quelque chose de correct. Enfin, ça, je l'ai su par la suite. Et ça me plaisait bien de chanter ces mélodies qui sont assez entraînantes. Et pour la culture générale, en fait, j'ai découvert tout ce pendant de la musique classique qui m'a énormément plu.
Comme quoi, à partir de trésors de la musique, on arrive à développer des trésors dans l'interprétation plus
exactement.
Tard. Hein. Alors bon, je reviens deux secondes, à La Donna Immobile, parce qu'en fait, elle apparaît 3 fois.
Oui.
Et on se rend compte au fil des 3 interprétations, que finalement, il y a un caractère ironique, on va dire, à cette interprétation, et que finalement, la femme n'est pas aussi changeante et légère que ça. Qu'est-ce qui vous fait aimer cet air et cette interprétation, surtout, parce que vous avez choisi celle de Luciano Pavarotti?
Alors, cette interprétation, je la trouve solaire. C'est vraiment l'italianité de Pavarotti dans toute sa splendeur. Et l'air, en fait, la mélodie est assez sautillante, assez joyeuse. On a envie de chantonner ça comme un petit jingle. Mais comme vous l'avez dit, les paroles sont assez misogynes. Donc il y a déjà il y a déjà un biais en fait dans la chanson, dans l'air. Et cette version, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est très spontanée. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on chante comme ça quand on fait la fête. La première version, il me semble, est chantée à la cour. Oui. Du duc de Mantoue parmi les courtisans.
C'est ça.
Donc c'est vraiment le lieu où le duc est chez lui et à l'aise.
Et se montre.
Se montre et montre tout son pouvoir. Et voilà.
Alors on reste dans le domaine féminin, tiens, on va parler d'une fée.
Oui.
Une fée, c'est le fée dragée. C'est ça ? C'est oui. La danse de la fée dragée ? Vous nous en parlez un petit
peu ? Oui, alors j'ai choisi cet extrait parce que ça, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais enfant. Donc on avait des cassettes à l'époque. Ça peut vous donner une idée. J'écoutais beaucoup le Lac des Cygnes, j'écoutais beaucoup Casse-Noisette, parce que j'étais une petite danseuse. Je faisais de la danse classique, j'ai commencé à 4 ans. Et on écoutait donc beaucoup de musique de ballet en cours de danse. Et à la maison, je me passais la cassette de Casse-Noisette en boucle. Donc je crois que je connais à peu près par cœur toute l'œuvre. Et cette danse, je la trouve très délicate, très jolie. Et ça me plaisait beaucoup en tant qu'enfant.
Et ça vous plaît toujours?
Ça me plaît toujours. Ben ouais. Alors quand je tombe dessus à la radio, je suis toujours enchantée, j'écoute le morceau jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est
grâce à vous, vous allez vous enchanter vous-même finalement.
Voilà.
Parce que Casse-Noisette, qu'est-ce que c'est? C'est un ballet féerie, je crois qu'on l'appelle, sur une musique de Tchaïkovski. Donc on a changé de pays là aussi. Et c'est une adaptation d'une version d'Alexandre Dumas, d'un conte allemand. C'était Casse-Noisette et le roi des souris à l'origine, écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Il s'agit donc, évidemment, je ne peux pas le rater, d'un conte d'Hoffmann. Casse-Noisette connaît un immense succès international. L'histoire se passe le soir de Noël. Macha reçoit de son oncle un casse-noisette. Et pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence. Dans le salon, les jouets s'animent. Le casse-noisette se transforme en prince. En prince charmant, évidemment. Aurélie, un prince charmant, c'est bien, non? Un prince, c'est bien, mais un prince charmant, c'est encore mieux.
Oui, ça dépend ce qu'on veut en faire.
En tout cas, voici une danse, et quelle danse ? C'est la danse de la fée dragée. Il faut remarquer, dans la danse de la fée dragée que nous venons d'écouter, c'est un air des plus renommés hein, de Casse-Noisette, il y a la présence d'un instrument particulier qui s'appelle le célestat. À l'époque, c'est un instrument récemment créé, et il évoque à la perfection, je crois, le personnage de Macha par sa couleur tendre et quasi enfantine, par son caractère féerique, magique. Particulièrement connu dans le solo de cette danse, hein, le célestat apparaît aussi dans d'autres passages de Casse-Noisette. C'est le son enchanteur qui, dès l'origine, a séduit le public et a suscité son admiration. C'est un instrument de la famille des percussions, je crois, c'est ça ?
Oui.
Il est muni d'un clavier, un peu comme un piano.
Oui, c'est un instrument à clavier. En fait, quand on appuie sur une touche, ça tape sur une petite cloche qui fait ce son absolument délicat.
Ouais, moi, je voudrais le considérer ou le définir comme un instrument hybride entre le glockenspiel, le carillon, et le piano, finalement. Il frappe des lames métalliques ou des petites cloches, ça dépend des célestins. Maurice Ravel, compositeur français, l'a employé dans Ma Merloie, et l'aidronette impératrice des pagodes en particulier. Holst, un autre compositeur, le fait entendre dans Les Planètes. Et puis, c'est l'un des instruments à percussion favoris du compositeur américain John Williams. Oui. Donc, le célestat traverse les époques, les siècles, et récemment est souvent utilisé. Au cinéma, les premières notes du thème principal des films de la saga des Harry Potter sont données au célestat. Et puis Iggy Pop, le chanteur, joue du célestat lui-même dans une de ses chansons. Alors Aurélie, à quand un duo pour soprano et célestat?
Quand vous voulez.
Ça serait une très très bonne idée, non? Peut-être qu'on pourrait y penser pour la prochaine émission.
Oui, tout à fait.
Il est l'heure de donner nouveaux notes avec Stéphane sur RDC.
On continue notre voyage dans l'espace et dans le temps. On remonte dans le temps avant, avant les extraits qu'on vient d'entendre. On va jusqu'à Handel, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Qu'avez-vous choisi de ce compositeur, Aurélie, et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi un air pour mezzo-soprano qui s'appelle... Attendez.
Vous me parlez de soprano, vous me dites que vous êtes soprano tout à l'heure. Maintenant, vous me parlez de mezzo-soprano. Moi, vous savez, j'y connais pas grand-chose, alors il faut m'expliquer ça.
Alors, justement, donc dans, chez les chanteurs, on a plusieurs types de voix. Donc, il y a déjà les femmes et les hommes. Et chez les femmes, vous avez les voix aiguës, donc qui sont les sopranos. Vous avez les voix plus graves qui sont les mezzo-soprano ou voix moyenne. Mezzo-soprano, ça veut dire moyenne soprano, en fait.
Et non pas moitié soprano.
Un peu moins aiguë. Et donc, les voix les plus graves de femmes sont les altos ou contraltos. Et chez les hommes, nous avons donc les ténors, donc les voix les plus aiguës, les barytons qui sont au milieu et les basses, donc ce sont les voix les plus graves. Donc, cet air que nous allons entendre, cet air de Handel, donc un compositeur du XVIIIe siècle, c'est un air en italien qui s'appelle Crude Furie degli Orridi Abissi, extrait de Circe. Donc c'est un air baroque. Donc vous allez entendre une version par Joyce Di Donato que j'adore, qui est extrêmement dynamique. Alors le baroque, ça se fait beaucoup maintenant depuis sa redécouverte avec des instruments qu'on dit anciens, c'est-à-dire qu'ils ont été reconstruits à partir de plans d'origine avec les techniques de l'époque.
Dans des copies d'anciens.
Voilà, c'est ça,
aussi,
des
hein.
copies d'anciens. Et alors la sonorité est assez différente. Elle est un peu plus directe, un peu moins moelleuse que les instruments qu'on a aujourd'hui, qui sont des instruments plutôt adaptés à la musique romantique ou à la musique plus post-romantique, enfin au début du XXe.
Plus proche de nous, oui.
Voilà, donc là on va faire un bond au XVIIIe siècle. Handel, donc, c'est un compositeur anglais qui a écrit beaucoup en italien parce que c'était la langue de l'opéra, qui s'est énormément développé au XVIIIe, donc c'est la période qu'on appelle le bel canto, où les chanteurs étaient au centre de la composition. Donc on le voit bien dans cet air, où c'est vraiment la voix qui prédomine, la voix, les ornements, enfin les variations.
Hors de chanteurs et de chanteuses, point de salut à l'époque.
Hein. Voilà.
L'histoire, rapidement, donc celle, c'est le roi de Perse, est amoureux de Romilda, qui reste insensible à son amour, car elle aime et est aimée d'Arsamène, le propre fer du roi, la famille. Circe finit par chasser de sa cour ce frère devenu gênant. La famille, encore une fois. Les épisodes de cette rivalité entre frères seront suivis avec le plus grand intérêt par Atalanta, la sœur de Romilda, et prise d'Arsamène, je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, etc. Et par la princesse Amastrée, fiancée, abandonnée par le très changeant Circe. Donc il n'y a pas que la Donna qui est mobilée, finalement. La Donna est mobilée, mais pas que, peut-être. Quelques paroles de l'air que vous avez choisi, Aurélie, traduite en français, évidemment. Furie cruelle de l'horrible abîme, saupoudrez-moi de poisson amer, de poison amer, c'est terrible.
Oui,
pas gai tout ça. Mais rassurons-nous, après bien des rebondissements, les amoureux vaincront, tous les malentendus, et puis, ouf, tout est bien qui finit bien.
Oui.
Alors on écoute le titre, j'ai oublié le titre.
Crude furie degli orridi abissi.
Par Joyce
Di Donato.
Maintenant.
Crude furie degli orridi abissi, aspergetevi, aspergetevi, aspergetevi contro di aspergetemi contro veleno, d'otraino.
Aurélie, je voudrais qu'on parle maintenant de la Traviata. Alors, c'est un célèbre opéra de Verdi, c'est ça ?
Tout à fait.
Et je crois qu'il repose beaucoup sur le rôle de la soprano, finalement.
Oui, alors la Traviata, pour tout vous dire, Stéphane, c'est un rôle que j'ai énormément chanté. Alors, le rôle de Violetta, donc le rôle principal. C'est un opéra de Verdi extrêmement connu, extrêmement joué dans le monde entier. Je crois que ça fait même partie du top 3 des opéras les plus joués. Et donc, ça a été écrit sur la base du roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias. Et le personnage de Violetta est le pendant de Marguerite. Donc, j'ai choisi un extrait parce que c'est vraiment une œuvre qui me tient à cœur, que je chante depuis des années. Et donc, j'ai chanté au moins 5 ou 6 productions différentes en langues différentes, donc en français, en allemand et en italien. L'italien étant la version originale. J'ai choisi cet extrait spécialement parce qu'il ne s'agit pas d'un air, il s'agit d'un récitatif accompagné à l'orchestre.
Stop, je vous arrête, récitatif, on récite alors ?
Non, en fait il s'agit d'une scène jouée dramatique mais chantée. C'est-à-dire qu'on va... Alors je vais vous faire un petit récapitulatif.
Allons-y. Hein,
parce que dans l'extrait qu'on a entendu précédemment, donc l'extrait de Handel, il s'agissait d'un air. Et c'est pendant les airs que le personnage développe son état émotionnel. Donc c'est toujours un état fixe au XVIIIe siècle. Mmh. Alors là, on passe au XIXe siècle avec Verdi. Et là, l'état émotionnel change. Donc dans les airs, ça se développe. On peut passer de la tristesse à la mélancolie, à même la joie. Enfin, dans l'air de Violetta, on passe de l'un à l'autre de façon assez abrupte. Pardon. Mmh. Et alors dans l'extrait que j'ai choisi, il s'agit de la rencontre entre... Alfredo et Violetta. Violetta a été amoureuse et a été forcée de quitter son amoureux Alfredo pour des raisons, on va dire, d'éthique bourgeoise ou de morale, puisqu'elle était une femme plutôt légère, une demi-mondaine, donc qui vivait
Violetta,
avec beaucoup d'hommes.
Violetta, si on traduit, c'est dévoyée. Hein.
Oui, voilà. Et donc le beau-père, son futur beau-père, ne supportait pas cette relation qu'elle avait avec son fils et lui a demandé de se séparer de son fils pour pouvoir marier la sœur d'Alfredo, mmh. pour faire un mariage tout à fait convenable. Donc dans cette scène, Violetta retrouve son amoureux Alfredo dans une soirée où tout le monde fait la fête, mais eux sont en dehors de la fête pour s'expliquer et dire « Mais pourquoi tu m'as quitté? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux ?» etc. Alfredo est un peu bu. Et donc, c'est une scène extrêmement dramatique que j'adore chanter, que j'adore écouter. On entend la progression des émotions des personnages à travers la musique. C'est ça qui fait que Verdi est pour moi un génie. Et vous allez entendre...
Auditrice, auditeur, je vais vous dire quand même que j'ai assisté à une interprétation de la Traviata où Aurélie Ligerot tenait le premier rôle. Et j'ai passé, et tous les spectateurs, je le dis très directement, un superbe moment artistique et musical. C'est... pour ça, je n'ai pas peur de le dire, que j'ai le plaisir et la fierté de la recevoir aujourd'hui, une chanteuse lyrique de cette qualité, une soprano comme elle. J'ai la joie de vous la présenter, auditrice, auditeur, puisqu'elle a accepté de descendre, comme on dit, de la capitale. Elle disait qu'elle était de Bordeaux, mais elle habite aussi la région parisienne. Elle a accepté de faire un grand voyage pour venir avec nous et participer à Donnez-nous vos notes, émission diffusée sur RDC 93.4 et 92.5. Aurélie, il faut quand même nous parler de... Finalement, la première fois où moi je vous ai vu, parce que vous ne m'avez pas vu, j'étais parmi les centaines de spectateurs, et moi je vous ai vu, je vous ai entendu, et je vous ai dit et redit le plaisir qui fut le mien, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de cette façon, de cette mise en scène à laquelle j'ai assisté cet été, où finalement il y avait la partie chantée, puis une partie interprétée en français avec des acteurs, et une adaptation, je vais dire, du texte d'Alexandre Dumas. Mm. C'est un parti pris intéressant, ça, non ?
Oui, alors cette représentation que vous avez vue, elle avait été produite par Figarossi Figarola, qui est une association de production musicale à Montbrillon, avec qui je travaille régulièrement. Et donc, ils font le choix de partir en tournée dans les villes et villages de la Vienne et d'Aquitaine. Enfin, un peu partout autour de Poitiers et Montmorillon.
Apporter la culture là où elle ne va peut-être pas souvent, en tout cas cette culture-là, oui.
Voilà, en tout cas, proposer des concerts pour ceux qui ont envie de venir découvrir. Et ces mises en scène, donc ce sont des adaptations. Donc là, cette année, on avait fait la Traviata, qui est un opéra qui dure 2h30, avec grand orchestre, grand chœur, etc. Nous, n'avons pas ces moyens-là avec Figarossi et Figarola. Peut-être que ça viendra, si... peut-être. Et donc, la question de l'adaptation se pose surtout par rapport aux lieux dans lesquels on joue, puisqu'il s'agit souvent de salles polyvalentes, de gymnases, de...
Qui ne sont pas des maisons d'opéra, voilà. Tiens, je vais poser le terme. Maison d'opéra, ça veut dire c'est opéra, hein, c'est l'Opéra Bastille, c'est l'Opéra Garnier, c'est le Grand Théâtre de Bordeaux, non, c'est le Théâtre d'Angoulême, etc.
Tout à fait.
Et là, moi j'ai assisté à la représentation d'une grange, ce qu'on appelle la grange. Alors que certes, elle est un peu aménagée, c'est pas la grange brute, hein, brute de pomme. Mais quand même, ça reste un lieu qui est éloigné des maisons d'opéra. Et donc, il y a tout un travail d'organisation, d'aménagement, ce qu'on voit sur scène et puis ce qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire ce qui se passe avant, les répétitions, le travail individuel des artistes, mais aussi le travail de la technique, quelle soit la technique du son, de la lumière, de l'organisation générale. Quoi, et puis il y a l'orchestre, le travail du chef d'orchestre. J'ai pu échanger avec plusieurs membres de cette équipe-là, et je les salue évidemment, très amicalement, et je pense que de l'équipe Figaro-ci, Figaro-là, vous êtes la première à avoir été invitée ici, mais vous ne serez sûrement pas la dernière.
Et pour revenir sur l'adaptation, en fait, on a fait ce choix pour... car on a fait le choix de ne pas mettre de sous-titres. Donc c'est pour... On fait jouer par des comédiens le texte en français, oui, pour apporter une compréhension plus directe, en fait, parce que l'opéra, c'est une esthétique, en fait, de voix qui est assez travaillée, et le texte ne parvient pas forcément tout de suite à l'auditeur. Il faut une certaine habitude pour arriver à le discerner. Bien qu'on fasse énormément d'efforts pour se faire comprendre, une partie parlée, une partie texte parlée permet aux gens qui n'en ont pas l'habitude de comprendre
l'histoire. Alors, c'est une voix seule, c'est deux voix, comment c'est un duo, non?
La Traviata, oui, donc ça, c'est une partie en duo. Donc, vous avez un ténor, Alfredo, et une soprano, Violetta. Donc, ça va être Ileana Cotrubas et Placido Domingo. Une version que j'adore, vraiment, qui est magnifique, justement par son côté extrêmement dramatique.
Une version d'il y a quelques temps déjà, mais qui reste... une des versions de
référence. C'est une des versions de référence pour
moi. De cette œuvre-là. Alors voici donc l'extrait de la Traviata proposé par Aurélie Ligerot sur RDC. Relis cette histoire, cet opéra, c'est beau, mais c'est triste, non?
Oui, ça finit
mal. En tout cas, pour la Traviata, ça finit très mal, non?
Oui, alors ça fait partie comment dire? Alors, on a parlé un petit peu des opéras baroques où c'était la voix qui était au centre. Là, on part dans une nouvelle période où ça va être le livret et l'histoire, le théâtre qui va être au centre. Donc là, on est sur des histoires beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus jouées. Et donc, Violetta, qui est une jeune fille, jeune femme extrêmement pétillante, pleine de vie au début, on se rend compte qu'elle est malade, qu'elle a la tuberculose. Et donc, il est écrit dans la partition qu'elle tousse régulièrement, tout au long du...
Il faut tousser musicalement, alors?
Non, mais il faut tousser, vraiment.
Voilà.
Enfin, vraiment, c'est du théâtre, donc. Et donc, tout au long de l'opéra, on va voir, en fait, sa maladie prendre possession d'elle pour, finalement, la détruire à la fin. Mmh. Et donc, l'histoire d'amour avec Alfredo est extrêmement reliée à cette maladie.
C'est pas dans cet opéra-là que Violetta, elle tombe, des fois?
Ah si, alors moi, je suis une spécialiste des chutes.
On en parlait. Plus dur sera la chute.
Ouais, c'est-à-dire que le génie de Verdi, c'est de tout écrire dans la musique. Comme vous avez entendu... dans l'extrait précédent, la tension qu'il peut y avoir dans l'orchestre avec Je ne saurais pas l'analyser musicologiquement, mais en fait, en tant qu'auditeur, on peut se rendre compte que dans cet extrait, c'est quelque chose d'assez tendu.
C'est aussi beaucoup dans le ressenti, et c'est le génie de Verdi de transmettre ça avec des techniques, on va dire, musicales, solfégiques, instrumentales, que sais-je encore, avec la nomenclature de l'orchestre, et puis la répartition entre les familles d'instruments et les instruments eux-mêmes, les voix évidemment. Mais c'est vraiment c'est physique, quoi. Il y a une sensation. On vit avec la déchéance progressive de Violetta, et finalement, elle arrêtera, elle, de vivre. Le personnage, s'entend. Et comment on fait pour endosser un rôle, pour interpréter un personnage, pour entrer dans la peau d'un personnage? Comment faites-vous, surtout lorsque le personnage, ça peut arriver, n'est pas, disons, des plus sympathiques?
Alors là, c'est un travail de composition.
Donc déjà, je m'en doutais.
En tant que chanteur, on apprend la musique, on apprend le texte. Et alors, le texte, c'est vraiment ma base. Moi, je travaille énormément sur le texte pour formuler les personnages.
Quelle que soit la langue dans laquelle vous allez chanter.
Oui, y compris les langues dans lesquelles, les langues que je ne parle pas, comme le tchèque ou le russe.
Donc là, vous apprenez phonétiquement ou comment ça
On
se
est
parle?
Obligé d'apprendre phonétiquement, oui. Mais moi, je m'intéresse toujours beaucoup à la grammaire, aux racines des mots, parce que ça permet d'avoir une base, en fait, déjà mémotechnique, et une base aussi pour comprendre la forme des phrases. Où est le sujet, où est le verbe, à quel endroit on va pouvoir mettre l'accent. À quel endroit on va pouvoir mettre l'accent. Et donc c'est ce travail-là, en fait, qui est un peu grammatical, qui est un petit peu de l'analyse littéraire, qui nous permet de former la trame du personnage qu'on va faire. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait en préparation.
Ça, c'est le travail individuel.
À la maison, individuel, ou avec un chef de chant, avec un pianiste.
Alors un chef de chant, je sais pas ce que c'est.
Alors un chef de chant, c'est un pianiste qui est spécialisé dans l'accompagnement des chanteurs, donc dans l'opéra ou dans la musique de chambre, notamment la mélodie ou le lead. Le lead, c'est une mélodie allemande.
Oui.
Et donc, le travail avec le chef de chant, c'est vraiment une base de la préparation des chanteurs, puisqu'on met la musique et le texte ensemble avec un instrument qui va remplacer l'orchestre, donc le piano.
Donc un instrument polyphonique qui peut faire entendre plusieurs
notes. Et donc, on se rend compte à ce moment-là des ambiances que le compositeur a voulu faire passer, des moments de tension, des moments de relâchement, et c'est aussi ça qui va permettre de structurer notre travail et la composition du personnage. Et la deuxième étape, ça va être en répétition avec le metteur en scène, avec les partenaires, où là, on est dans le physique, c'est-à-dire dans les déplacements, dans quels gestes on va faire, dans quel état émotionnel on va mettre le personnage.
Et là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, à travers vos propos, de tout le travail qu'il y a avant la représentation, qu'on voit les uns ou les autres et qu'on apprécie. Il y a tout ce travail de préparation individuelle, de préparation collective avec les uns, les autres. Et puis, il y a plusieurs sortes de répétitions en costume, pas en costume, avec l'orchestre, avec le piano, enfin, etc., etc., dans le cadre d'un opéra. On continue notre voyage dans l'opéra, s'il vous plaît. Vous nous faites entendre maintenant un extrait de La Rondine.
Rondine, oui, ça veut dire l'hirondelle en italien.
Et c'est de Puccini.
Oui, alors c'est un opéra que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai chanté à au Théâtre du Capitole il y a quelques années.
Capitole, c'est à Toulouse.
C'est à Toulouse, exactement. Et alors cet air est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Ça a été aussi une de mes grandes découvertes quand j'étais une jeune chanteuse. Alors il faut...
étiez une jeune chanteuse, non.
quand j'étais une chanteuse débutante, bébé chanteur, quand j'avais un an de chant derrière moi, là j'en ai un petit peu plus qu'un an, mais j'écoutais beaucoup de disques pour rattraper une culture que je trouvais un peu pauvre. Donc j'écoutais beaucoup de disques, je lisais beaucoup de partitions, et alors Puccini, ça a été vraiment une découverte assez fondamentale. Parce qu'il partage avec Verdi cette capacité à émouvoir énormément, tout en étant extrêmement doux et agréable à chanter. Puccini, c'est vraiment, ça tombe dans la voix, comme on dit dans le jargon. C'est quelque chose qui est extrêmement agréable, en tout cas dans ma voix, c'est très agréable à chanter.
Comme si ça allait de soi, on va dire.
Voilà, c'est assez une évidence.
Comme si, quand même, parce qu'il y a tout un travail.
Oui, on insiste beaucoup sur le mot travail, parce qu'effectivement, chanteur lyrique, c'est, C'est un métier, c'est un sport.
Soprano en particulier.
Ah, mais toutes les voix en fait. Alors la soprano, elle va dans les aigus, donc c'est extrêmement impressionnant. Il y a, il y a l'enjeu de la puissance aussi pour passer l'orchestre. Enfin, ce qu'on appelle passer l'orchestre, c'est-à-dire chanter au moins aussi fort que 80 instruments qui jouent très fort chacun sur leur instrument.
Passer la rampe.
Il y a un enjeu au niveau acoustique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec notre professeur de chant, qu'on travaille tous les jours.
Chef de chant, professeur de chant, chef d'orchestre, metteur en scène, et puis les gens responsables des costumes, etc. Il y a toute une équipe là aussi
qui
contribue, qu'on voit sur scène ou qu'on ne voit pas.
L'opéra, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement collectif.
L'opéra, ça veut dire œuvre, c'est œuvre commune.
Voilà, finalement. Comme le cinéma, en fait, on se rend assez peu compte quand on voit sur l'écran deux personnages qui discutent, mais en fin de compte, il y a une quinzaine de techniciens derrière, tout le travail de post-production, de montage, etc. Et alors, dans l'opéra, on retrouve un peu ça, sauf que c'est du spectacle vivant, c'est-à-dire que toutes ces équipes doivent travailler ensemble de concert pour arriver à monter l'œuvre, avec des temporalités un peu différentes, c'est-à-dire que les costumes, les décors, ça se fait avant, les chanteurs apprennent leur rôle avant, mais il y a tout le travail des répétitions où là, on met tout ensemble. Et ça, moi, c'est ma partie préférée, avec les concerts, évidemment.
Alors, ce que vous exposez, fort justement, ça ne s'est pas construit en une fois, parce qu'il y a eu des moments, la querelle des bouffons, etc., où les gens refusaient de travailler les uns avec les autres, ou avant, ou après les autres. Bref, c'était assez surprenant, certainement, quand on était spectateur. On parle de petites secondes de l'histoire, donc. Ça va être interprété par qui, ce que vous proposez?
Alors, c'est Angela Georgiou, une soprano roumaine qui a fait une carrière extraordinaire. J'adore sa voix. Mmh. Et sa voix se prête très très bien à Puccini.
Ouais. Alors, ça se passe lors d'une réception au salon de Magda. C'est Prunier, le poète à la mode à l'époque, qui déclare que l'amour est dans l'air du soir. Love is in the air, n'est-ce pas? Mmh. Il commence alors à chanter sa dernière composition que Magda termine en improvisant. C'est l'aria intitulée, alors pardon pour mon italien, qui est Bel sogno di Doretta.
Oui, très bien.
Lorsque Magda chante, les invités s'écrient délicieux, délicieux. Aujourd'hui, on dirait sûrement super ou cool ou je ne sais pas. À la fin, Prunier déclare que toutes les grâces du printemps sont aux pieds de Magda. C'était raconte l'histoire de Doretta qui, dans son rêve, rejette l'affection du roi, car elle sait que son or, l'or du roi, ne pourra jamais la rendre heureuse. Ce n'est pas par hasard si la rondine a été surnommée la Traviata du pauvre. L'argument est associé à une trame qui se rapproche de l'opéra La Traviata dont on parlait tout à l'heure. Et on a une courtisane en vue à Paris, un jeune provincial invité dans son salon, le coup de foudre, la fuite dans un nid d'amour, le bonheur brisé au nom des conventions sociales. C'est une espèce de miroir. Hein. Et le songe de Doretta, c'est l'air le plus connu de la rondine. Il est un peu comme un arbre qui crèche une forêt, je vais dire, une forêt de mélodies issue du génie, j'ai pas perdu le mot, de Puccini. Un spectateur a dit « À chaque fois que je vois ça, je pleure ». Nul doute qu'il s'agisse d'un habitué, mais ces mots traduisent bien la beauté, celle de la composition, autant que celle de l'interprétation. C'est encore du pas très gai, ça, Aurélie ?
Alors, dans cet air, si, au contraire, c'est un air plutôt joli, plutôt chouette. Il n'est pas extrêmement dramatique, comme on peut en trouver chez Puccini. On en verra peut-être un extrait tout à l'heure.
Mais bon, l'opéra, c'est assez souvent « je t'aime, tu ne m'aimes pas » ou bien « tu ne m'aimes pas » ou « on ne peut pas s'aimer, mais on va s'aimer quand même ». Alors, au risque, allez, je prends le risque de faire hurler les puristes, je vais parler de Marcel Zanini avec « tu veux ou tu veux pas ». Voici la rondine.
Thank you.
dans cette partition, on trouve le one step, le foxtrot, et puis d'autres danses américaines que Puccini a découvertes alors qu'il était à New York, lors d'un séjour 10 ans avant, et qu'il a intégré à sa partition. Il faut jouer avec l'air du temps, il faut sans doute avoir en cela le geste d'une modernité qu'on n'a pas toujours reconnue à Puccini. Et ici, une fois encore, la preuve en est donnée.
Alors Puccini, c'est un compositeur italien qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis. Et donc il s'est un petit peu intéressé à ce qui se passait là-bas à l'époque. C'était le début du XXe siècle.
Oui, donc c'est tout récent finalement.
Oui, c'est un compositeur qui composait pas de façon très moderne pour son époque, mais il a intégré quand même quelques danses dont vous parliez dans la rondine. C'est ça qui fait que c'est une partition extrêmement sympathique à écouter. Parce qu'il y a surtout dans l'acte 2, le chœur chante des valses, des foxtrots. C'est vraiment chouette à écouter.
Enfin, c'est très varié, très plaisant.
Oui, voilà.
Allez, vive Puccini, évidemment. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. RDC 93.4, 92.5 pour la région de Saintes. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Ligeureau. Aurélie, savez-vous que dans l'émission Donnez-nous vos notes, on joue. Et c'est maintenant le moment du jeu pour les auditrices et les auditeurs. Une question est posée, je vais la poser en lien avec le déroulement de l'émission. La première auditrice ou le premier auditeur qui trouve téléphone très très vite au standard de RDC. Je donne le numéro, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. La première, le premier qui donne la réponse a gagné quoi ? Un CD et une invitation à participer, à assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes, diffusée sur RDC 93.4 et 92.5. Voici la question, attention. Aurélie Ligeureau est une chanteuse lyrique. Quelle est sa tessiture ? Est-ce qu'elle est soprano ou est-ce qu'elle est mezzo ? Je répète la question. Aurélie Ligeureau est une chanteuse lyrique, c'est Aurélie Ligeureau que nous recevons aujourd'hui. Quelle est sa tessiture, quelle est sa voix, comment s'appelle la voix dans laquelle elle chante? Est-ce que c'est une soprano ou est-ce que c'est une mezzo? Pour gagner, précipitez-vous sur vos claviers au 05 45 95 09 87. Le premier, la première, gagne plein de choses agréables. Comme d'habitude, la réponse dans quelques minutes et c'est Aurélie qui vous donnera elle-même la réponse. On reste dans le domaine de l'opéra. Aurélie, et cette fois on va parler... Ah bah c'est encore Puccini, dites-moi.
Oui, bah c'est un compositeur que j'aime tellement et qui est tellement agréable à chanter que je me suis autorisée à en faire diffuser plusieurs extraits. Donc là on va entendre Un bel di vedremo, extrait de Madame Butterfly, qui est un des opéras les plus connus de Puccini. Mmh. Et donc ça se passe au Japon. Donc c'est l'histoire d'un officier américain, un marin qui se déplace dans le monde entier. Et donc il décide de prendre une petite femme japonaise, comme ça, pour s'amuser. Sauf que la femme japonaise...
C'est terrible, mais c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai, c'est extrêmement misogyne ce livret. Et c'est adapté d'une nouvelle de Pierre Loti. Ouais. Et en fait, c'était, alors encore, je pense, assez réaliste.
Pierre Loti, c'est Rochefort, on est dans Nouvelle-Aquitaine encore.
Oui, oui. C'est assez réaliste parce que ça pouvait se dérouler comme ça à l'époque. Et donc, la jeune femme japonaise qui... Il croit qu'elle va devenir une femme américaine. Alors elle affiche le drapeau américain dans sa maison. Elle rejette un peu sa famille et tout. Et en fin de compte, elle va se retrouver abandonnée par ce mari qu'elle n'a vu que quelques jours, en fait. Et donc c'est un peu le destin tragique de cette femme qui se donne totalement une nouvelle nationalité.
Elle se fait avoir comme ça. Alors il s'agit d'un des plus longs airs composés par Puccini, parce qu'au total c'est près de 5 minutes. Mm. On ne pourra pas l'écouter en entier, hein, vous nous excuserez Aurélie. Et dans sa conclusion, l'orchestre reprend le thème initial, peut-être pour décourager les applaudissements, les rappels, la plupart du temps en vain, car c'est tellement beau que les spectateurs applaudissaient à tout rompre à la fin de l'air et demandaient une deuxième interprétation. C'est le rêve éveillé de Butterfly, qui est considéré comme l'un des plus pathétiques et plus émouvants que Puccini a composé. C'est comme une vision lointaine, pianissimo, presque murmurée, et qui finit par éclater con forza, avec force, comme un cri de douleur qui frôle la folie. Madame Butterfly, pour moi, c'est aussi le souvenir d'un cœur à bouche fermée, je crois.
Oui.
C'est assez rare, ça.
En fait, c'est un cœur de coulisses, ouais. Bouche fermée, qui sert à donner une ambiance.
Donc, théoriquement, de coulisses, ça veut dire qu'il est interprété hors de la scène.
Voilà, il est caché. Mm-hmm. Et c'est une technique qu'on utilise pour créer un peu des ambiances.
Ouais.
Alors ça peut, là, c'est pour donner une ambiance nocturne. Dans d'autres opéras, ça peut être, par exemple, dans les dialogues des Carmélites de Poulenc, créer une urgence où la foule se presse en dehors du couvent et on entend « Ouvrez la porte !» Des choses comme ça, pour créer un petit peu d'angoisse.
Ouais.
Alors, les chœurs peuvent être donc sur scène ou en coulisses.
Comme les instruments, dans Carmen par exemple, on a une trompette qui répond à une autre trompette, alors que la deuxième trompette est hors scène, on va dire. Moi je trouve que Puccini, c'est vraiment encore une musique instrumentale et vocale qui s'apparente à un chef-d'œuvre vraiment, cet opéra-là, mais plus généralement toute son œuvre. Connaissez-vous Daniel Gérard? C'est un chanteur de variété, vous n'étiez pas né. Il a chanté Butterfly, une chanson de variété,
d'accord,
comme un écho, même lointain, à l'opéra. Et puis, dans la chanson, les amoureux vont se retrouver après une longue séparation. Ah, ça se rapproche peut-être de certaines histoires d'opéra. Un rapprochement avec Pénélope aussi. Et le retour de son Ulysse de Marie. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, puisque opéra, c'est œuvre.
Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Bon, si on changeait de style, de genre, d'époque, de chanteur, d'interprétation, parlons...
Alors, je voulais juste dire un dernier mot sur Puccini, puisque cet été, avec la compagnie Figaro, on va faire un grand gala sur Puccini, puisque c'est l'anniversaire de sa mort. Et donc, on va faire un grand concert.
J'ai sûrement déjà réservé ma place.
Oui, où je chanterai justement Butterfly, Mimi, Tosca, toutes les grandes héroïnes qui m'ont fait tant rêver quand j'étais un bébé chanteur. Eh bien, c'est maintenant que ça se réalise et je suis vraiment très heureuse de ce concert. Et, donc
nous donc, je ne vous le cache pas. Alors, je disais donc, on change d'époque, on change de genre, on change de style, on change d'interprète. On va aller faire un tour du côté de la chanson française, la chanson de variété.
Oui, alors moi, avant d'être chanteuse lyrique, j'adorais la variété, j'en écoutais beaucoup et j'en chantais beaucoup. Et donc, on va écouter un titre d'Aznavour que j'aime beaucoup parce que ça parle de la vie des chanteurs. Et ça parle aussi du côté backstage, en fait, de la partie que le public ne voit pas, qui peut être pas si pailletée et reluisante que ça. Mais en fait, on aime quand même cette vie parce qu'elle est tellement variée, diversifiée, joyeuse ou triste. Enfin, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles en permanence. Et je trouve que cette chanson le décrit bien.
Je me voyais déjà, donc c'est une chanson française de Charles Aznavour, et vous venez d'expliquer pourquoi vous l'avez choisi. C'est une chanson qui est gravée sur son 7e album, et elle s'avère un des premiers grands succès, et un succès emblématique du répertoire de l'artiste, en France comme à l'international. C'est pas rien quand même. Avec humour, avec ironie, cette chanson traite du sujet de la vie d'artiste, vous venez d'y faire allusion, du rêve d'atteindre les sommets. Vous avez atteint les sommets, Aurélie, non pas, déjà certains, oui, mais vous allez continuer, évidemment.
Oui, évidemment.
En tout cas, je vous le souhaite.
On n'a jamais fini.
Ah oui, dans le domaine de l'art, beaucoup d'appelés, peu d'élus, de l'art en général.
Oui.
Je me voyais déjà, c'est une chanson inspirée de la vie d'artiste de Charles Aznavour lui-même, mais aussi, paraît-il, de celle d'un jeune artiste en costume bleu, qu'il a entendu un jour dans un bar à Bruxelles. Aznavour écrit la chanson le soir même dans sa chambre d'hôtel. À son retour en France, il la propose à Yves Montand, qui la refuse au prétexte qu'elle parle des artistes. Allez savoir pourquoi. Aznavour l'interprète alors lui-même, avec succès, pour la première fois sur la scène de l'Alhambra à Paris. Choisir, c'est renoncer. Et ici, c'est renoncer à interpréter un tube, Yves Montand. Il n'a pas eu le nez fin, le nez creux. Aurélie, quand on est artiste, chanteuse par exemple, est-ce qu'on choisit ce qu'on veut interpréter ou ce qu'on ne veut pas interpréter?
Alors ça dépend, parce qu'on peut choisir quand on est en récital, quand on donne un concert, où là effectivement on peut choisir le programme selon les désirs éventuellement des organisateurs. Si on me demande « faites-nous un concert à Mozart », bon, bah, je ne vais pas chanter du Puccini parce que ça ne cadrerait pas avec la demande. Mais alors, on peut choisir ce qu'on chante, mais en restant dans le cadre de son type de voix. Par exemple, moi, je ne pourrais pas chanter des airs de ténor ou de mezzo-soprano, par exemple.
Il y a les sopranos qui le font, qui prennent des airs de ténor.
Oui, alors c'est
c'est les choix, hein.
Oui, mais c'est plutôt marginal, en fait, quand on est chanteur lyrique. En fait, c'est un domaine qui est assez cadré, qui est assez... comment dire, il y a une culture et des règles qui sont quand même assez présentes. Donc moi j'ai un répertoire des rôles de soprano, donc des rôles qui sont aigus, qui sont souvent des personnages un peu jeunes, un peu des jeunes premières, des personnages comme
ingénue.
Ça. Voilà, alors ça dépend, hein. Violetta, ouais, c'est pas vraiment absolument. Une ingénue, mais il peut y en avoir. Ouais. Et donc on peut choisir ce qu'on chante, mais dans un certain cadre. Vous voyez, je vais pas me mettre à chanter Valentin dans Faust, ça n'aurait pas de sens, à moins de partir dans une version complètement
remanié,
woke,
oui, c'est ça,
et,
remanié,
voilà, et dégenrée de Faust.
Bon. Il arrive hein, parfois qu'on
ça peut arriver,
un deuil, on en reparlera sûrement plus tard. En tout cas, moi je m'y vois déjà, je me vois déjà dans la salle, écouter Aurélie Ligerot chanter avec d'autres artistes chanteurs, et Aznavour, lui, il s'y voyait déjà.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.
On change encore de style et d'interprète. On parle d'un groupe, c'est les Poupini Sisters. Qui c'est les Poupini Sisters?
Alors c'est un groupe de 3 chanteuses donc, qui font des morceaux toujours à 3, toujours en trio. En trio, pardon.
Et en triomphe aussi, sûrement.
Oui, bon. Sûrement, oui. Et alors j'aime beaucoup ces arrangements parce que c'est extrêmement joyeux. Et alors là c'est une version de Sisters, qui est un extrait de comédie musicale The White Christmas, qui a été écrit par Irving Berlin.
Mm-hmm. Alors le titre donc, ne au parle départ, pas forcément, pardon, le titre ne parle pas forcément, mais
vous allez reconnaître.
Quand on va entendre, on va dire « Ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr ».
Voilà, c'est au départ un duo, et alors là, cette version que j'ai choisie, elle a été arrangée en trio, et j'aime beaucoup, vous allez reconnaître.
Et c'est donc la version des sœurs Clooney, qui fut l'enregistrement le plus populaire hein, de cette chanson-là. Et on peut l'arranger quand même dans la catégorie des variétés. Finalement, c'est dans la même famille que ce qu'on vient d'entendre. Mmh. Au Royaume-Uni, le succès est également dû au groupe Les Beverly Sisters. Et on peut aussi entendre une interprétation par Bette Midler et Linda Ronstadt. Aurélie, vous nous proposez donc la version des Poupini Sisters et vous nous avez dit qui c'était. Le nom du groupe a été choisi en référence aux Andrews Sisters, qui sont une de leurs principales influences. Le trio déclare s'inspirer aussi de The Cordettes, de Boswell Sisters, de Marlene Dietrich, de Fred Astaire, de Ginger Rogers, de Joan Crawford, bref, de beaucoup d'influence finalement est née cette interprétation. C'est un bel héritage, je trouve, hein, parce que vous avez entendu les noms auxquels elles font référence. On est ici dans le cas d'une reprise, d'un cover, pour parler de jeunes. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on décide de faire une reprise ou un cover? Ça existe dans l'opéra, des covers?
En fait, non, parce que nous, comment dire? En fait, on ne fait que ça. On ne fait que rechanter de la musique qui a déjà été diffusée, qui a déjà été écrite, sauf quand il y a de la création. On en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Quand un opéra vient juste d'être composé, là, on a la chance de le chanter pour la première fois. Mais ça peut être une partie assez réduite de notre activité actuellement, enfin, en tout cas de la mienne. Donc en fait, le cover, ça se fait beaucoup en variété pour réarranger un peu un morceau différemment,
le mettre à sa sauce,
ouais. Voilà, ou le chanter à plusieurs artistes alors qu'au départ c'est qu'une chanson
ou avec
pour
d'autres
un.
Instruments ou avec un autre.
Mais voilà,
tempo,
et puis alors ça, je trouve que ça enrichit énormément la composition parce que ça permet de mettre d'autres ambiances. Ça m'inspire beaucoup en fait les artistes qui réussissent des covers
en écoutant ce talent au trio, les Pupini Sisters, je ne peux m'empêcher de penser à un autre trio également talentueux que j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois, c'est les Glossy Sisters, et je les salue amicalement. Alors voici le titre, c'est White Christmas, c'est ça?
Sisters.
Sisters. Extrait de White Christmas, il y a quand même ça. Et
Irving Berlin.
Oh yes. Et c'est par The Pupini Sisters. Here we are. Alors on parle d'opéra, on parle de variété française, étrangère. J'avoue Aurélie, et je ne doute pas que les auditrices et les auditeurs aussi, appréciez beaucoup que vous puissiez parler de différents styles, même si vous êtes soprano lyrique, en tout cas c'est votre métier, votre profession, dans le cadre de votre exercice artistique. Et toujours dans le registre des variétés, on va parler de Queen.
Alors, juste un petit mot par rapport à Sisters. En fait, j'avais choisi cette chanson parce que c'est un titre phare d'un récital que je donne avec Clara Schmidt, donc de la compagnie Les Angeleuses. C'est le nom de la compagnie fait référence à l'idée qu'on a envie d'apporter un peu de poésie,
d'enjôler
un petit peu le public. Et nous avons un récital qui s'appelle De Berlin à Broadway, où on fait un peu l'histoire de la comédie musicale. Donc on est deux chanteuses lyriques, une soprano, donc moi-même, et Clara Schmidt mezzo, accompagnée par un pianiste de jazz. Et on chante de façon légèrement différente, en fait. On passe par l'opérette, donc où il y a des extraits de Johann Strauss, par exemple, ou Franz Lehár, qui sont de l'opérette viennoise, donc c'est un peu plus proche de l'opéra. Puis petit à petit, on glisse comme ça jusqu'à arriver à Sisters et à la comédie musicale plus récente. Et c'est un récital que j'adore faire et qui rencontre souvent beaucoup de succès au niveau du public, parce que les gens reconnaissent des morceaux. Et il y a ce côté toujours très entraînant de la comédie musicale qui, je trouve, fait beaucoup de bien actuellement.
La musique n'a pas de frontières, évidemment. Alors justement, on continue avec la variété encore. Queen.
Oui. Alors ça, c'est mon côté rock.
Oui, on a tous un côté rock.
Oui. Alors Queen, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce qu'il mettait beaucoup d'attention à la composition des morceaux. Et c'est arrangé presque comme un opéra, celui-là. Vous voyez, il y a une partie polyphonique, il y a une partie assez lente et douce, et puis après, il y a une partie un peu plus énervée avec les solos de guitare. Bon, on n'aura pas le temps de tout écouter parce que c'est un morceau qui est extrêmement long.
Il faudra revenir.
Oui.
Alors, on en sait très peu sur l'origine du nom du morceau. Selon une interview de Brian May, le guitariste du groupe, Freddie Mercury aurait trouvé ce nom au cours des sessions d'enregistrement. Et d'après un documentaire de la BBC, les premières bandes enregistrées étaient simplement étiquetées Fred's Thing, c'est-à-dire le truc de Fred ou le machin de Fred. Bref, le truc qui est au fond du tiroir, qu'on sortira peut-être un jour. Fred, c'était Freddie Mercury, bien sûr. D'une façon générale, le titre révèle une chanson au format hors norme, c'est la Rhapsody, Auditrice, auditeur, je suis sûr que vous avez trouvé que nous allons écouter Bohemian Rhapsody, et c'est maintenant par Queen.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Alors le texte évoque quelqu'un qui ne se plie pas aux règles de la société, un bohémien. C'est le côté rock dont vous parliez tout à l'heure, Aurélie. Ça lui a inspiré à composer ce morceau sur un piano installé dans son appartement londonien. Et puis dans un entretien avec l'un des producteurs du groupe au début des années 80, on apprend que Mercury aurait affirmé s'être basé sur un mélange entre rock et opéra. Pour peaufiner la chose, il avait ensuite apporté des modifications jusqu'à obtenir exactement ce qu'il désiré.
Oui, c'est musique. Extrêmement précis. Moi, j'aime beaucoup ces groupes qui m'ont que j'écoute surtout parce que j'enseigne. C'est-à-dire que mes élèves m'apportent pas mal de musique et je m'y intéresse pour pouvoir personnaliser leurs cours. Alors, finalement.
Vous enseignez, excusez-moi, c'est encore une branche dans votre art, mais vous enseignez quoi?
Alors j'enseigne le chant. Donc la technique vocale, et je fais aussi du coaching pour les professionnels, bon ça c'est un petit peu à part, et donc ces styles-là, donc que ce soit la comédie musicale, le rock, la variété, c'est des choses que j'aime écouter moi-même, et qu'en plus je m'y intéresse pour optimiser mon enseignement. Donc j'en chante un petit peu moi-même, bien que je donne pas de concert avec ça, puisque bon, je suis quand même vraiment chanteuse lyrique, hein, voyons. Et voilà, donc les cours de chant, c'est une petite partie de mon activité, mais je trouve que c'est extrêmement important de se remettre un peu dans une forme de laboratoire.
Et c'est la transmission aussi.
Oui, la transmission permet de comprendre aussi ce qu'on fait, et permet d'aller plus loin dans la compréhension de notre technique, de notre activité, et trouver comment bien transmettre une notion, c'est... Pour trouver comment la transmettre, c'est nécessaire de la décortiquer et de vraiment malaxer la notion pour que
pour
ça soit le
chose,
plus le plus simple possible.
Apprendre quelque chose, c'est aussi apprendre à l'apprendre aux autres, qui fait qu'on apprend au quotidien et tous les jours, j'en suis sûr.
Oui, c'est ça.
Je reviens à la rhapsodie. Alors en musique dite classique, une rhapsodie, c'est une composition pour un soliste et un ensemble instrumental. Très souvent, c'est une forme libre. Souvent en un seul mouvement, mais dans l'Antiquité grecque, une rhapsodie avec un H cette fois, c'est une suite de poèmes épiques chantés par les rhapsodes. Les rhapsodes sont des chanteurs itinérants, des bardes finalement.
Hein, oui, bardes, des troubadours.
Ouais. Les trouvères. Comment ne pas évoquer évidemment la rhapsodie in blue de Gershwin, et comment ne pas évoquer les multiples reprises de Bohemian Rhapsody, notamment celles qui donnent à entendre les marionnettes du Muppet Show, mais aussi Pavarotti ou Montserrat Caballé.
Oui.
Tiens, pour les deux dernières, voilà bien un rapprochement encore entre rock et opéra, non? Quant à moi, je me rappelle d'une version instrumentale fort réussie, interprétée par un trio qui s'appelle Volta 3X, amical, pensez à eux. Et puis bientôt, Aurélie, une reprise de Bohemian Rhapsody avec vous?
Ah, pour l'instant, c'est pas prévu, hein, mais dans mon salon, oui.
Merci beaucoup. À partir de maintenant, auditrices, auditeurs, dans de nouvelles notes sur RDC 93.4 et 92.5, nous allons entendre des enregistrements de notre invitée Aurélie Ligereau. Nous allons entendre sa voix. Mais quelle est la tessiture de sa voix? C'était la question du jour. Soprano ou mezzo. Auditrice, auditeur, telle était la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Je vais évidemment demander à Aurélie elle-même de donner la réponse. La réponse, c'est Aurélie, êtes-vous soprano ou mezzo-soprano?
Alors, je suis soprano, donc la voix féminine la plus aiguë.
Eh oui, eh bien c'est Jessica de Gonpontour qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné quoi? Un CD ou un DVD et une invitation, une interprétation, oui, pourquoi pas, avec Aurélie Ligereau, une invitation à participer, à assister à une prochaine émission de la série Donnez nouveaux notes sur RDC 93.4 et 92.5.
Bravo Jessica.
Aurélie Ligereau, soprano que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et d'inviter sur le plateau de RDC. On revient dans l'opéra ?
Oui, volontiers.
Et alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Oui, mais c'est enregistré, on ne va pas tricher. Oui. Même si tout à l'heure, auditrice, auditeur, je vais vous le dire maintenant, mais nous allons entendre le deuxième extrait. Et à chaque fois qu'Aurélie a écouté ou réécouté quelque chose, elle l'a interprété intérieurement. Et il y avait des gestes, des mimiques qui trahissaient le fait qu'elle était en train de chanter en même temps que ce qu'on entendait. Ah oui, on a envie. Hein.
Et oui, on se refait pas.
Alors, Thaïs Massenet.
Oui, c'est un air que je trouve particulièrement beau. Ouais. Il est assez long aussi. Et en fait, c'est la réflexion d'une femme qui vieillit, qui est une femme qui est extrêmement belle, une courtisane. Alors, il y a beaucoup de courtisanes dans l'opéra. Bon, c'est les gens normaux, en fait, ça intervient qu'à partir du XXe siècle, hein, parce que les compositeurs et les librettistes d'opéra aimaient mettre en scène des rois, des princes, des stars, des courtisanes, enfin, tout ça, pour faire rêver, et pour faire rêver le public. Donc, Thaïs, c'est une courtisane... qui est entourée d'une cour d'admirateurs, qui a énormément d'argent, qui est très belle. Mais en fait, en vieillissant, elle commence à douter un peu de sa capacité de séduire. Et c'est une réflexion assez intime et assez complexe sur qu'est-ce que c'est que la féminité.
Elle n'a pas de miroir à interroger pour savoir qui est la plus belle sur Terre.
Ben si, justement, mais le miroir ne va pas donner de réponse.
Aïe, aïe, aïe. Ça se passe en Égypte, c'est ça, non ?
Oui. C'est
à la
ça.
Fin du IVe siècle.
Et le rôle du baryton, donc Athanaël, va rencontrer Thaïs. Et donc ce rôle de baryton, c'est un moine extrêmement religieux qui a envie de convertir Thaïs pour la faire devenir religieuse elle-même ou arrêter en tout cas ses activités complètement.
Inacceptable.
Voilà. Donc c'est un peu la rencontre entre la sensualité, la vie, et puis quelque chose de beaucoup plus raide, de beaucoup plus spartiate,
strict,
rigoureux, etc. Et en fait, contre toute attente, Thaïs, qui est une femme qui a quand même pas mal d'angoisse en fait sur sa vie. va se prêter au jeu en fait d'Athanaël et va le suivre dans son chemin religieux.
Tout ceci prête à réflexion, à méditation.
Oui,
puisque la méditation de Thaïs est une œuvre ô combien célèbre que Massenet a confiée au violon solo dans un opéra parfois jugé assez sévèrement, alors que je crois qu'il compte sans doute parmi les chefs-d'œuvre de l'art lyrique français. Merci Aurélie, merci beaucoup de nous avoir proposé un autre extrait de cet opéra de Massenet et que la méditation, mais c'est votre voix que nous allons entendre, et c'est dans quel air déjà ?
Dans « Dis-moi que je suis belle
».
Elle parle à son miroir.
Ah oui, mais je vais vous le dire quand même.
Tous ces hommes ne font qu'indifférents.
Bouchereau qui va chanter, mais un autre genre, un style. That'll show him something funny happened on the way to a forum, c'est ça? Avec cet air, on est dans l'acte 2 d'une comédie musicale lancée à Broadway. On revient à un autre style, un autre genre. Funny thing happened on the way to a forum. Si je traduis librement, c'est le forum en folie. Allez,
voilà. Hein,
vous êtes d'accord? Quand on dit forum, il s'agit du forum de la Rome antique, évidemment. C'est un retour à la comédie musicale, donc, qui a été créée par Stephen Sondheim, Bert Shelove et Larry Gelbart. Elle relate les aventures de Pseudolus, un esclave en quête de liberté qui aide son jeune maître, Hero, à conquérir le cœur de la belle Philia. Cette dernière est promise au capitaine Miles Clorgus. Le tout se complique avec la découverte de la maison close voisine dirigée par Domina, une matrone sournoise ô combien. Alors Pseudolus et Hero doivent rivaliser d'astuces pour réussir leur mission. A Funny Thing Happened in the Way to Forum est une œuvre célèbre pour son humour décalé, ses personnages colorés, sa musique entraînante. Aurélie, vous interprétez ici un air de Philia, c'est ça ?
Oui, alors pour donner un peu de contexte, Philia s'adresse à son amoureux en lui disant « Tu vas voir, je vais me marier avec un tel, mais quand il m'embrassera, que je serai dans ses bras, je ne penserai qu'à toi, donc ne t'inquiète pas. »
C'est ça.
Et donc en fait, c'est tout le... toute la trame de l'air. Ce que je trouve assez drôle, en fait, c'est que c'est surtout la tête du partenaire, en fait, qui entend ça et qui se dit « Mais elle est complètement bizarre, celle-ci. »
C'est pas vrai ce que j'entends, dites-moi que je rêve. Et voici l'interprétation de Aurélie Ligereau. Dans quelques instants, elle se prépare.
Oh, you hate him. But I hate him too. And I have a way to make him suffer. Let the captain let me and move me. I shall play my part. Let him make his mad passion to me.
Encore un aller-retour, encore un voyage dans le temps avec Don Pasquale. Qu'est-ce que c'est, Don
Pasquale ? Alors, Don Pasquale, c'est une comédie de Donizetti. Donc, c'est la fin du bel canto. C'est le... On a parlé du bel canto baroque tout à l'heure avec le XVIIIe siècle. Et là, on arrive au XIXe siècle. Et en fait, j'ai choisi ce morceau parce qu'en opéra, on parle beaucoup des livrets qui sont tristes, qui sont romantiques, qui sont tragiques. Mais il y a aussi des comédies. Et Don Pasquale, c'est une comédie hilarante où le personnage de Norine, hein, en fait, est une jeune femme très maligne qui va embobiner un vieux monsieur qui cherche à se marier avec une femme plante verte, hein, si vous me passez l'expression. En fait, il cherche quelqu'un, une jolie fille, mais qui pourra lui faire à manger, être gentiment assise à la messe à côté de lui. Bon, voilà.
C'est encore un récitatif, là, ou pas ?
Non, là, il y a une partie chantée. Là, c'est un air où elle explique que elle explique en fait sa vision de la séduction, c'est-à-dire que dans les livres, on apprend aux jeunes filles qu'un prince va venir les chercher, etc., tomber raide amoureux comme ça à la première vue. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça.
Ah et... bon, moi je croyais. Hein.
Et non, et même les personnages d'opéra sont au courant que, en fait, c'est le sourire, c'est la séduction
c'est pour de la fausse,
qui fonctionne.
C'est pour de la fausse. Aurélie, c'est votre voix que nous allons encore entendre avec plaisir dans Quel guardo il cavaliere, suonco la vertu magica, Don Pasquale de Donizetti.
Thank you.
change de style encore, on change d'époque. Et alors, lorsque j'ai lu la première fois, je me suis franchement demandé si j'avais bien lu. Papageno, bon, ça je connais, ça m'a fait penser à Mozart, hein, quelque chose comme ça. Et après, j'ai lu Tindarella. Là, il a fallu que je lise deux fois. Papageno, bon, d'accord. Tindarella, là, je ne sais pas du tout.
Alors, Papageno et Tindarella, c'est un opéra contemporain. Donc, c'est une création que j'ai fait en 2023, une création d'un compositeur français qui s'appelle Patrick Loiseleur. Et alors, il s'est inspiré des applis de rencontre. Son idée, c'était que Papageno, le personnage de la flûte enchantée, a été quitté par
de
sa
Mozart,
femme.
Donc, je parlais tout à l'heure.
Oui. Voilà. A été quitté par sa femme et donc se crée un profil sur une appli de rencontre. Et là, il rencontre Tindarella, donc ce personnage dont le nom a été formé avec la célèbre application qu'on connaît tous.
Moi, je crois que c'était aussi Cinderella qui était visée avec ça.
Le nom c'était plutôt l'application, en fait.
D'accord.
Et donc, tout l'opéra, c'est un opéra de chambre donc, qui a été composé pour...
Un opéra de chambre, qu'est-ce à dire ?
Alors, c'est un opéra qui a un orchestre et un nombre de chanteurs réduit. Donc là, nous sommes quatre chanteurs et cinq instrumentistes donc, qui font l'orchestre. Ça a été composé exprès pour...
Un violon, un piano.
Donc on a un quatuor à cordes et un piano.
Alors, quatuor à cordes...
Et on a une clarinette.
Violon, un violon, deux, alto, donc, une clarinette... Un piano, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et quatre chanteurs ?
Et quatre chanteurs.
Soprano ?
Donc on a une soprano, une mezzo, un baryton et une basse. Et donc ce qui est très drôle dans cet opéra, c'est que le téléphone portable est personnifié par un personnage, par la basse. Donc c'est XZ004000... je me souviens plus le nom du téléphone, mais c'est un nom comme ça, là.
Ah,
et il ne fait que dire « nouveau message, nouveau message ». Enfin, c'est aussi un opéra qui a été composé pour parler de la rencontre et de la difficulté à trouver un partenaire éventuellement, mais c'est aussi pour parler des nouvelles technologies et de la présence qu'elles ont dans notre vie, y compris dans notre vie sentimentale, parce qu'il y a une scène très drôle, le duo entre Papageno et Tindarella, leur première rencontre au parc. Et le message n'arrête pas de dire « nouveau message ». Le téléphone n'arrête pas de sonner, en fait.
Donc c'est au-delà de la rencontre, c'est l'envahissement causé par les nouvelles technologies, en tout cas l'usage qu'on en fait, évidemment. Était-ce un rêve seulement, c'est ça ?
Oui, ça c'est l'air de Tindarella, où en fait elle reçoit une lettre de Papageno, et elle se rend compte qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Et c'est une rêverie, en fait, sur cette relation qui va bientôt commencer, et elle...
Voilà. Je serais ravi, vous lui direz de ma part, si vous le rencontrez, de recevoir Patrick Loiseleur.
Oui, mais je lui transmettrai, bien sûr.
En tout cas, voici « Était-ce un rêve ?» seulement interprété par Aurélie Ligero sur RDC 93.4-92.5. Opéra de chambre, grâce à Aurélie Ligero, nous venons d'en écouter un. On change de style encore. On parle du negro spiritual. Qu'est-ce que c'est que le negro spiritual ? Bon, moi j'ai envie de dire que c'est le résultat d'une rencontre entre plusieurs cultures. La culture africaine, la culture européenne, la culture américaine, à l'issue du commerce triangulaire et de ce qui pouvait en résulter des années après. Et le negro spiritual, vous nous en parlez
Le negro spiritual, en fait, c'est plutôt un chant qui était chanté par les esclaves africains, du coup, des plantations américaines.
D'où la rencontre entre l'Afrique et l'Amérique, oui.
Oui, alors il y a deux types de chants. Il y a les chants de travail, en fait. Et il y a les negros spirituels qui étaient plutôt des chants à tendance religieuse, donc toujours chantée par ses esclaves, avec des textes bibliques, enfin évangéliques. Et donc, ça, c'est un extrait d'un concert que j'ai donné il y a, à Bordeaux, avec uniquement un répertoire gospel. Là, je m'étais
donné... Gospel, négro, spirituel, c'est la même famille?
Oui. Oui, alors le gospel c'est vraiment chanté à l'église, et en général en chœur où il y a un soliste et des chœurs.
Gospel ça vient de God's speech, c'est la parole de Dieu.
Oui, gospel c'est l'évangile en fait.
Voilà, c'est ça.
Et donc c'est un extrait d'un concert que j'ai donné où il y avait quasiment uniquement du gospel, et j'avais vraiment travaillé ma voix d'une façon différente pour interpréter ce répertoire.
C'est-à-dire une façon différente? Vous pouvez préciser?
Alors, nous, en chant en lyrique, en fait, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la voix de tête, ou la voix de falsetto. Enfin, il y a des termes techniques, mais c'est quand on parle comme ça, en fait. Donc, je chante en utilisant cette voix, vous voyez. Alors, quand je parle, c'est un petit peu bizarre, mais parce qu'on n'en a plus l'habitude aujourd'hui.
Et quand vous chantez, j'ose, vous demandez trois notes?
Comment?
Et quand vous chantez, ça fait quoi? Je peux vous demander trois notes?
Eh bien, si je vous fais un exemple, ça peut faire... L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Là, je chante en voix de tête.
Reconnu, oui.
Voilà, que tout le monde a reconnu. Et alors, dans le gospel, c'est légèrement différent, puisque je chante dans un autre registre de ma voix. Un registre plus grave, qui est la voix qu'on peut appeler de poitrine. Ou... Enfin, il y a différents termes techniques, mais c'est la voix avec laquelle je parle, en fait. Donc, c'est une voix qui est plus proche du discours parlé, un petit peu esthétiquement, un petit peu moins rond, ou un petit peu moins...
Enveloppé,
voilà. Ouais, et donc, on a plus de facilité à comprendre le texte. C'est un registre qui est beaucoup utilisé dans les musiques actuelles. Et alors, c'est une technique différente.
Alors voici Give Me Jesus par Aurélie Ligerot. Commentaire Aurélie après l'audition de ce négro spirituel que vous chantez pour nous, et je vais redire que vous avez chanté dans votre tête aujourd'hui là. Deux commentaires qui ne sont pas de moi, mais je vous assure qu'ils auraient pu l'être. L'un, un seul mot, magnifique. L'autre, un mot encore, merci. J'ajoute un commentaire du chant, quelle belle prière, quelle belle mise en musique de cette prière. Donc Aurélie, si je comprends bien, vous ne vous limitez absolument pas à un répertoire, à un genre musical, vous dépassez les frontières entre les styles, et je vous le confie, c'est une des raisons qui font de moi un de vos fans. Voilà, ça y est, c'est dit. Je ne doute pas que le nombre de vos fans augmentera encore après l'émission d'aujourd'hui. Donnez-nous vos notes diffusées sur RDC. Et c'est une émission dans laquelle j'ai eu le grand plaisir de vous recevoir, et j'ai encore le grand plaisir de vous recevoir pour quelques minutes. Auditrice, auditeur, vous avez certainement éprouvé le même plaisir que moi, passer une partie de cette matinée du 28 mars 2024 avec Aurélie. Si l'occasion se présente d'aller l'écouter, d'aller la voir, n'hésitez surtout pas, surtout pas. Je voudrais vous dire que, en paraphrasant, si Aurélie est sur scène, alors le bonheur est dans la salle.
C'est gentil, merci. Le bonheur est sur scène aussi, hein, parce que j'ai beaucoup de plaisir à chanter.
Bien sûr, tant mieux, et ça se voit et ça s'entend. Dans la salle de concert dans laquelle elle se produit, et Aurélie donne ses notes, elle offre ses notes. Le bonheur est dans la salle, vraiment, et sur scène, bien sûr. Courez-y vite, le bonheur est dans la salle, courez-y vite, il va filer. Aurélie, je ne vais pas vous laisser partir avant de me faire un cadeau grâce à vous, si je puis dire. Et ce cadeau, je veux évidemment l'offrir à toutes celles et à tous ceux qui sont à l'écoute de RDC ce matin, ou qui écouteront le podcast de l'émission, qui sera dès lundi accessible ou quelques temps après sur le site de la radio ou peut-être mardi. Le cadeau, le voici. C'est un air que j'ai mille fois entendu, interprété en direct ou enregistré. Certaines interprétations sont pour moi remarquables. Elles me parlent, vais-je dire, selon l'expression consacrée. Parmi ces interprétations, je vais citer celle de Laure Polia, une de vos collègues, Aurélie. Laure Polia, que je serai enchanté de recevoir lors d'une future émission de Donner Nouveau Notes. Je veux aussi citer l'interprétation de Patricia Janeshkova, talentueuse jeune soprano qui nous a récemment quittés et bien trop tôt. Auditrice, auditeur, parmi les interprétations que j'évoque ce matin, parmi celles que je retiens, il y a, vous vous en doutez, celle d'Aurélie Ligero. Pendant qu'elle ne m'écoute pas, je lui tourne le dos, je vais dire que j'ai assez peu souvent ressenti une telle délicatesse et une telle précision dans une manière de donner cet air, d'offrir cet air. C'est vraiment d'une virtuosité expressive qu'il s'agit. Tout y est, le corps de la chanteuse fait vivre la musique, donne chair à la mélodie. C'est sans doute ça qu'on appelle l'interprétation. Merci Aurélie, bravo Aurélie, voici Mein Air Marqué. Donc le titre c'est Mein Air Marquis, extrait de La Chauve-souris de Johann Strauss II.
Oui.
Parce qu'il y a plusieurs Johann Strauss. Hein,
oui, c'était France. Toute une famille de musiciens, donc ils sont nombreux.
De père en fils, de cousin, etc., etc., de proche en proche. En français c'est Mon cher Marquis ou Monsieur le Marquis. Oui. On appelle aussi ce titre parfois l'air ou l'ariette d'Adèle. Adèle c'est celle qui chante, c'est le rôle.
C'est le personnage, oui, qui est un personnage de soubrette. Donc, ouais. C'est une catégorie assez intéressante. C'est souvent des personnages jeunes et malins, rusés, qui font avancer les histoires, qui participent aux quiproquos, etc. Qui font...
Alors voici rapidement l'histoire, puisque vous venez de prononcer le mot. Ça se passe chez le prince Orlovski, une fête basson plein, un invité qui se présente sous le nom de Marquis, le Marquis Renard, est très étonné car il croit reconnaître Adèle, la servante, la soubrette de sa femme parmi les convives. Mais Adèle, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, entonne un air qu'on vient d'entendre dans lequel elle s'étonne qu'on puisse la confondre avec une domestique, une soubrette. Elle, une personne aussi distinguée, vous voyez, j'essaie de prendre ma voix de tête hein, pour
oui,
faire
c'est ça.
Ce que vous faites. Avec
tout à
elle,
fait.
Les autres invités se moquent du marquis. Troisième opérette de Johann Strauss, La Chauve-souris est évidemment un chef-d'œuvre. Unanimement apprécié pour ses qualités musicales, mais aussi pour l'intelligence du livret, parce qu'on est obligé de reconnaître que ça ne va pas toujours de pair. Hein. Ici, le raffinement et les trouvailles musicales font une des œuvres les plus populaires du répertoire que cette chauve-souris, et elle demande aux chanteuses et aux chanteurs une réelle aptitude à jouer la comédie. Bon, c'est à Vienne que ça se passe, dans une nuit de folie, et puis c'est la vengeance minutieusement organisée par le docteur Volk envers son ami von Eisenstein, lui qui l'a contraint au retour d'un bal costumé à traverser la ville sous un déguisement de chauve-souris. Alors on a des quiproquos, des allées, des retours, et on est encore dans l'un chante pour l'autre avec l'autre, etc. Adèle, Aurélie, Adèle, un mot, bravo, chanteuse et actrice, Aurélie, ben, vous avez tout fait. Et puis danseuse, vous l'avez dit tout à l'heure.
Danseuse un petit peu moins quand même, hein. Maintenant, surtout quand j'avais 7 ans.
Aurélie, merci beaucoup de ce cadeau que vous avez accepté de me faire. Je l'ai imposé, je n'ai pas peur de le dire, mais elle a accepté de grand cœur. Merci tout autant de votre passage dans les studios de RDC. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de l'émission. Donnez-nous vos notes. Quel beau voyage vous venez de nous offrir. Parmi des instruments, des orchestres, des voix, des ensembles vocaux, parmi de magnifiques œuvres. Je parle déjà au passé car le temps passe et l'heure tourne. Et l'émission Donnez-nous vos notes, diffusée ce matin 28 mars 2024 sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, touche à sa fin. Déjà. Oli, grâce à vous, nous avons évoqué de célèbres artistes, dont la Callas ou la Tebaldi. Allez, j'ose le dire, on disait la Callas parce que c'était mettre en valeur l'interprète, ou la Tebaldi. Est-ce qu'un jour on va dire la Ligerot?
J'espère.
Tout le mal que je vous souhaite, car c'est bien là une manière de nommer et reconnaître les plus grandes voix. Aurélie, j'ai vraiment beaucoup apprécié les notes que vous nous avez données. J'espère qu'il en a été de même pour les auditrices et les auditeurs, toujours plus nombreuses et nombreux à suivre l'émission, à apprécier le parcours de chaque artiste qui s'est donné ses notes, offrir ses notes. Ce matin, Aurélie, en vous ouvrant à nous, vous nous avez fait découvrir une musicienne, une chanteuse de talent, une femme curieuse des autres, une personne généreuse et une passeuse d'émotions. Alors pour tout ceci, merci. Auditrices, auditeurs, je vous remercie très sincèrement de votre fidèle écoute et de nombreux témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC d'une émission à l'autre. Merci à Jessica de Gonpontour qui a trouvé que Aurélie chantait dans la voix de...
Soprano.
Soprano, elle a gagné, Jessica, un CD ou un DVD et une invitation à assister à une future émission. Aurélie Ligerot, dans la continuité des autres invités qui ont donné leurs notes sur cette antenne, vous avez magnifiquement parlé de votre parcours musical et artistique, avec les éléments qui le rendent authentique, avec des moments de votre vie qui sont liés à vous. Merci encore, bravo encore, et rappelez-vous, Aurélie, que rien n'empêche, dans quelques temps, une deuxième visite.
Oui, avec plaisir. C'était vraiment chouette d'être ici pour parler d'opéra, pour parler de théâtre, de musique. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup.
Nous vous recevrons à nouveau avec plaisir, soyez-en persuadés. Et pourquoi pas en duo, par exemple avec un ténor de vos connaissances, allez savoir. En tout cas, je sais déjà que vous nous donnerez de nouvelles notes, évidemment, autant de nouveaux cadeaux. Un mot encore pour remercier Jean-Marc de l'apport de son savoir-faire technique au bénéfice de la meilleure écoute des auditrices et auditeurs, et pour accompagner l'animateur que j'ai le plaisir d'être. Auditrices, auditeurs, au revoir et à bientôt, je l'espère, le 25 avril, même lieu, même heure. Une autre chanteuse sera l'invitée de Donnez-nous vos notes, Samantha Ferrando. Elle évolue dans un tout autre domaine vocal et musical que Aurélie Ligerot, mais comme elle nous dira tout des notes qu'elle nous donnera. Autre parcours, bien sûr, autre histoire aussi, mais toujours la même passion, celle de la musique, du partage, de la rencontre, de l'échange. Aurélie Ligerot, au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt peut-être, non, à bientôt
sûrement. À bientôt tout court.
Merci encore. N'oubliez pas de nous faire encore et toujours voyager grâce à la musique. Merci aussi beaucoup et d'avance pour ça, Aurélie Ligerot. Je rapporte pour finir quelques propos écrits sur vous. Des mots qui ne font qu'ancrer l'idée du voyage auquel vous nous avez invités ce matin et auquel vous allez continuer de nous inviter, évidemment. Aurélie Ligerot est une soprano qui se distingue par un phrasé souple, un timbre lumineux, des aigus limpides, un sens dramatique excellent, une gestuelle parfaite. Tout est dit, non ? Aurélie, à bientôt, j'insiste. À bientôt, ce sera une joie renouvelée pour nous, soyez-en persuadés. Jean-Marc, au revoir et à bientôt aussi, évidemment, avec plaisir. Je sais que tu feras tout pour que le podcast soit très bientôt disponible sur RDC 93.4 et 95. Mardi, paraît-il. Ah, on espère. Il y a des difficultés techniques ou d'emploi du temps. Jean-Marc, Tu sais quoi ? Tu peux lancer le générique, car pour aujourd'hui, sur les ondes de RDC 93.4.92.5, donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes, une note, des notes, donnez-nous des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.